Bienvenue à tous à cette tribune de la presse. Retour sur l'actualité hebdomadaire. Cette fin de semaine est marquée par la présentation à l'Assemblée nationale du programme gouvernemental. Un programme jugé réaliste par les députés de la majorité. Simple catalogue d'intentions répond l'opposition. Nous y reviendrons. Deuxième fait marquant de la semaine, c'est l'incursion d'hommes armés étrangers sur le sol congolais. D'abord, des uniformes angolaises dans le Bandundu près de Kaimba. Les populations de Chaimbwanda et d'autres villages se trouvent insécurisées. Et dans le nord-est, à Ango, c'est la présence de Mbororo qui inquiète aussi les populations. Ces éleveurs nomades viennent du Soudan, de la République centrafricaine et du Tchad. Nous commenterons donc tout ce fait avec nos confrères et consoeurs de la presse. Au téléphone depuis Kananga, Jean-Marie Bakajika, chef de programme de la CMD à Kananga même. En ligne de Mbujimaï, Claudine Bombo du journal L'Observateur. Et dans ses studios, Benoît Cambéré, grand reporter au magazine Catholique Renaître. Félix Kabouizi, directeur des publications de la Référence Plus, est avec nous. À tous, nous disons bienvenue. Avant d'aborder le programme, parlons de sa présentation à l'Assemblée nationale. C'est le Premier ministre Antoine Gizenga lui-même qui a exposé son plan aux députés nationaux ce jeudi. Notre confrère Le Potentiel a titré « Gizenga, mention passable ». Benoît Cambéré, c'est votre avis ?
Ben, disons déjà pour l'effort physique, parce que avant peut-être de parler, d'entrer dans le vif du sujet, j'ai vu le Premier ministre, malgré son âge, qui est resté debout pendant un moment, mais après, quand ils se sont assis, lui et ses ministres, on a vu que déjà, c'est soit l'un, soit l'autre, que les ministres étaient très fatigués. On a vu qu'ils somnolaient, on se demandait d'ailleurs si soit ils avaient beaucoup travaillé la nuit pour préparer cette présentation, soit déjà ils étaient fatigués avant que le travail ne commence. On pouvait se poser la question, on a même vu le Premier ministre également de temps en temps somnoler. Ceux qui ont suivi la télé ont remarqué ça. Bon, de toutes les façons...
Mais il était là jusqu'à la fin.
Il était là jusqu'à la fin, malgré son âge et tout le reste. Je crois qu'on peut dire mention passable.
Le palmarès a titré, lui, baptême de feu de Gizenga au Parlement, plénière sous haute tension hier. Claudine Bombo, vous êtes en ligne avec nous depuis Mbujima. Peut-on dire que le Premier ministre a tenu quand même face à la tension?
On dirait oui, parce que beaucoup ne lui donnaient pas cette chance-là. On a dit qu'il sera incapable de présenter son programme et on citait déjà les noms de Mayobo et d'autres ministres qui allaient présenter ça à sa place. Mais il a relevé les défis, il était là, il a présenté son programme. Même si on va bientôt les juger, mais du moins, pour ceux qui disaient, vu son âge, vu la vieillesse, il ne pourra pas tenir debout devant cette assemblée qui est très chaude, mais il a prouvé le contraire.
Oui, Félix Kabouizi, vous êtes aussi avec nous dans ces studios. À part le programme, est-ce qu'on peut dire que cet effort physique, c'est déjà un bon signe pour le démarrage?
Oui, c'est un bon signe, mais je pense que quand on parle de mention passable, ce n'est vraiment pas fameux, hein. Ce n'est pas fameux parce que on a remarqué certainement des limites d'ordre physique, telles que les deux prédécesseurs l'ont dit. Il faut peut-être ajouter à ça le contexte également qui était marqué par justement ce qu'on a dit, une petite polémique autour de l'absence du ministre du Commerce extérieur. Et jusqu'à l'heure qu'il est, on ne connaît pas celui qui va remplacer le fameux Kasongo Ilunga. Donc c'est peu là le contexte plus ou moins de mention passable dont parle notre ami le Potentiel.
Alors nous avons en ligne aussi depuis Kananga, Jean-Marie Bakajika. Jean-Marie, qu'est-ce que vous dites-vous d'abord sur la présentation du programme et même la modération du débat par le président de l'Assemblée nationale?
Oui, ici nous devons apprécier la modération du débat par le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. C'était une bonne modération, tout s'est passé dans la liberté, chacun pouvait s'exprimer comme il voulait. Je voudrais soutenir ce que les confrères venaient de dire tout à l'heure. Voir un papa de 81 ans se mettre debout comme ça devant le micro pendant plus d'1h30, c'est quelque chose à féliciter. On ne le croyait pas. Et je dis aussi que c'est la première sortie officielle de notre Premier ministre que beaucoup n'avaient pas encore vue et même entendue. Donc c'est quelque chose qui était passable.
Voilà, c'est ce samedi que l'Assemblée nationale décidera d'adopter ou non le programme du gouvernement. Il faut au moins 14,5 milliards pour les 5 ans de ce gouvernement. Un programme qui privilégie la consolidation de l'État, la lutte contre la pauvreté et la corruption, ainsi que la restauration des valeurs morales. Le condensé de ce programme avec René Capita.
Le programme de refondation présenté par le Premier ministre s'articule autour de 5 points, notamment la consolidation de la paix, la construction de l'État et de son autorité, la relance économique, la lutte contre la pauvreté et la restauration de la famille et des valeurs morales, et la lutte contre la corruption. Se basant sur le document spécial de la croissance et la réduction de la pauvreté des CRP, le gouvernement Gizenga a opté pour l'économie sociale du marché. Le secteur privé se chargera de la production des biens et services, alors que l'État contrôlera les branches stratégiques et vitales de la production nationale. Ceci dans le but de promouvoir le social et le bien-être de la population. Le programme du gouvernement présenté devant les élus du peuple met un accent particulier sur la bonne gouvernance et la justice. Car, a souligné le Premier ministre, sans la bonne gouvernance et la justice, après les élections sera égal à avant les élections. Ce programme prévoit aussi la mise en place d'un arsenal juridique qui permettra de donner des garanties pour les investisseurs privés, l'instauration d'une gestion transparente des ressources du pays en luttant contre la corruption et l'enrichissement illicite. Mais la mise sur pied de la décentralisation et des réformes dans les secteurs de la sécurité, de l'emploi, la santé, l'éducation et les secteurs socioculturels s'imposent. Notons enfin que le coût de ce programme des 5 ans est estimé à environ 14,5 milliards de dollars américains, la moitié devant provenir des ressources propres.
Alors les députés de l'AMP estiment que ce programme répond aux attentes des populations. L'opposition pense qu'il ne s'agit que d'intentions. Félix Kabouzi, je rappelle que vous êtes directeur de publication de la référence Plus. Quel est votre commentaire à ce sujet?
Bon, on peut faire beaucoup de commentaires franchement autour de ce programme. D'abord, beaucoup de gens ont regretté que le document soit plus ou moins incomplet parce que on ne voit pas l'ensemble des secteurs de la vie nationale plus ou moins quantifiés dans ce programme.
Donc c'est pas un programme détaillé.
Le programme n'est vraiment pas détaillé. Les remarques que François Mwamba, le secrétaire général du MLC, a données dans son intervention hier sont partagées par une large part de l'opinion. On ne peut pas avoir un programme gouvernemental sans donner la situation globale du pays dans tous les secteurs, sans déterminer les objectifs qu'on voudrait atteindre, sans donner l'origine ou la provenance des moyens. Donc c'est un programme évidemment qui laisse beaucoup de gens sur leur soif. J'aimerais par exemple comparer ce programme par rapport aux 100 propositions que le président Joseph Kabila avait soumises et qui ont constitué justement, si vous voulez, le contrat social passé entre lui et la population. Mmh. Moi, je n'ai pas retrouvé les 100 propositions du président Joseph Kabila dans ce programme. C'est même à se demander si vraiment il y a eu convergence entre le cabinet du Premier ministre.
Mais le programme se base quand même sur les 5 chantiers.
Les 5 chantiers sont là, mais le président avait formulé des propositions concrètes dans tous les secteurs, dans le secteur eau, dans l'électricité, l'habitat, et la lutte contre le sida, la scolarisation. On voit à peine vraiment ces 100 propositions de Joseph Kabila dans le programme gouvernemental. C'est vrai que le Premier ministre et même Olivier Kamitatou ont targué que le programme était provisoire et qu'ils allaient le compléter une fois qu'ils auront pris possession de différents ministères, mais je crois que ça c'est aussi une faiblesse. On ne peut pas faire un programme gouvernemental et dire on va l'amender dans 2, 3, 4 mois. Non, le gouvernement avait suffisamment de temps pour préparer un programme qui aurait dû mettre tout le monde d'accord.
Claudine Bombo, vous nous suivez depuis Mbujimayi. Est-ce que ce programme tel qu'il a été présenté répond quand même aux attentes des populations? Parlons des populations qui nous écoutent en ce moment à Mbujimayi.
Oui, répondre aux attentes de la population, oui. Mais on ne nous a pas démontré comment on va commencer. Comme Félix vient de le dire, nous nous attendions à ce qu'on nous présente d'abord l'état de lieu de tous ceux qui vont entreprendre comme travaux maintenant et nous dire au bout de 2-3 ans, nous devons déjà atteindre tel ou tel objectif. Ça, on ne l'a pas senti dans ces programmes-là. C'est pourquoi on l'a taxé de générique. Parce qu'on reprend tout ce que nous avons besoin, on le sait. Les attentes du peuple se retrouvent là-dedans. Mais comment concrétiser cela et le faire dans combien de temps? Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils vont embrasser tous les chantiers au même moment et au bout de 5 ans, ils auront déjà atteint des résultats escomptés. Ils devraient nous dire, par exemple, dans les sociales, voilà ce qu'il y a et nous comptons au bout de 2 ans faire ceci ou cela. Ça, nous ne l'avons pas senti.
Voilà, vous avez parlé de concret, Félix Kabouizi aussi a soulevé le même problème, Benoît Cambéré, peut-on dire qu'il manque des détails chiffrés, il manque du concret dans ce programme Gizenga?
Effectivement, il manque les chiffres. Ils l'ont dit dans l'introduction, si c'était un bruyant, ou si c'était un programme provisoire, ils ont dit que les détails, le programme plus détaillé viendra plus tard. C'est à se demander ce qu'on a fait depuis tout ce temps. Je me dis, la coalition au pouvoir maintenant devait se préparer à diriger. C'est-à-dire que chaque parti de la coalition devait avoir son programme et c'est ce programme qu'on allait fusionner pour s'arrêter seulement sur les 5 chantiers qu'on cite d'ailleurs. Et je me demande à court terme, qu'est-ce qui sera fait? À moyen terme, qu'est-ce qui sera fait? Et à long terme, qu'est-ce qui sera fait?
Dans les 100 jours, par exemple?
Et dans les 100 jours, ils ont même évoqué que dans les 100 jours, ils vont articuler sur les actions d'urgence à impact visible. Quoi exactement? C'est-à-dire reprendre là où la Banque mondiale a cessé, mais avec quels moyens? Personne ne nous dit quoi. Mais effectivement, on les attend sur les 100 jours. Ils disent qu'ils vont renouer avec la Banque mondiale les difficultés financières qui étaient arrivées avec la suspension du programme
et l'appui budgétaire.
Et l'appui budgétaire, ils vont... je me demande si le Premier ministre Gizenga a des entrées auprès des institutions de Bretton Woods pour que, dès qu'il entre, comme ça on lui donne un chèque en blanc, ou on voudrait le voir à l'œuvre pour éventuellement revenir et l'aider. Et tout ça n'est pas dit. C'est bien. Je suis sûr, malheureusement, que ce programme va passer avec la majorité qu'on a, sans les discuter. Mais ce serait dommage qu'on ne tienne pas compte des remarques très pertinentes. Et d'ailleurs, là, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire la qualité des gens de l'opposition que nous avons au Parlement. On a vu des arguments pointus, des arguments massus, et ce serait dommage que, fort de la majorité numérique qu'ils ont au Parlement, les gens de l'AMP se passent de ces arguments, se passent de ces critiques qui peuvent les aider à améliorer.
Alors Jean-Marie Bakajika, vous nous écoutez à Kananga, vous êtes avec nous dans cette tribune de la presse. L'opposition pense qu'il ne s'agit que d'intention. Vous avez aussi écouté les confrères. Est-ce que les propositions données par l'opposition doivent normalement figurer comme rectificatif dans le programme que va défendre ce samedi le Premier ministre?
Je pense parce que si on ne doit pas tenir compte des propositions de l'opposition, quelles qu'elles soient minoritaires au Parlement, je pense que le gouvernement aura commis une grosse erreur. Je voudrais aussi ajouter, Georges, vous savez, la première faiblesse avec laquelle commence le gouvernement, c'est la présentation de l'équipe gouvernementale avec la France et le marqué du fameux ministre du commerce extérieur, Yvunga. Alors, je voudrais aussi ajouter, personne ne sera au-dessus de la loi, bonne gouvernance, bonne justice, gestion transparente, lutte contre la corruption. Ah, ça c'est très bien, mais il faudrait alors que ceux qui sont à la tête ont déjà le temps. Il ne faudrait pas que ces mots, ces phrases restent des lettres mortes. Il faudrait que ceux qui sont au sommet du pays puissent déjà donner le temps pour que le reste puisse aller sans problème. Et j'étais en train de vous demander hier, quand on suivait les discours, le premier ministre, les honorables députés étaient en train d'acclamer. J'étais en train de me poser la question, pourquoi ces acclamations, c'était pour soutenir, est-ce qu'ils vont aider le gouvernement à mettre en pratique tout ce qu'il a dit? Je ne comprenais rien de toutes les acclamations au palais du peuple.
Voilà, Félix Kabouizi, on a parlé tantôt aussi de remarques de l'opposition. On a entendu, par exemple, François Mwamba évoquer l'affaire Mboudi que lui-même avait jugé irréalisable lorsqu'il était aux affaires. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition profite un peu de ce programme pour y mettre un peu de mauvaise foi?
Non, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait de la mauvaise foi. C'est vrai que le gouvernement auquel François Mwamba a appartenu, le gouvernement de la transition, n'a pas été à mesure d'honorer les accords ou le salaire de Mboudi. Mais je pense que il appartient au gouvernement élu de chercher à rencontrer ce salaire. Il s'agit d'un gouvernement qui est élu. Il s'agit d'un gouvernement, en principe, qui devait faire mieux que les gouvernements précédents. Mais effectivement, les remarques que l'opposition a données sont fondées. Lorsqu'on parle d'un programme gouvernemental, on attend des ambitions qu'on affiche, on attend des projets qu'on présente, des projets concrets, on attend, si vous voulez, des objectifs à atteindre, on attend voir les chiffres et voir comment on peut faire un effort pour atteindre ces chiffres-là. Mais effectivement, comme tout le monde l'a dit, même certains députés de la majorité, tout le monde reconnaît que le programme n'est pas complet. Vous voyez, par exemple, je voudrais être un peu plus concret. Prenons le cas de l'Ituri. L'Ituri est une sous-région ou une province qui a connu des problèmes. Et déjà en 2002, on estimait que plus de 70% des infrastructures en Ituri étaient détruites du fait de la guerre. Mais parcourir le programme, il n'y a absolument rien de concret sur les moyens de réhabiliter toutes ces infrastructures qui étaient détruites, que ce soit des hôpitaux, les écoles ou les bâtiments administratifs. Beaucoup de choses ont été détruites du fait de la guerre.
Et donc, globalement, le gouvernement, par exemple, ne dit pas qu'il y a 50 000 écoles et dans 3 ans, nous pourrons arriver à 70 000 écoles.
Non, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas du tout. Il y a juste, comme beaucoup de gens l'ont dit, des intentions qui sont nobles, mais des intentions dont on ne voit pas comment elles peuvent être transformées en faisabilité, si vous voulez. Donc, c'est ça le plus grand péché de ce programme.
Benoît Kambéré, à part ce fait de manque de concret, de manque de données chiffrées, le gouvernement a besoin de 14,5 milliards, le financement de ce programme sera-t-il possible?
Bon, d'abord 14,5 milliards pour une population de plus de 60 millions d'habitants, pour un pays grand comme le nôtre, c'est ridicule. C'est ridicule.
C'est pour 5 ans en plus.
En plus, pour 5 ans, on a des petits pays, je ne voudrais pas dire petits par méprise, non, on a des petits pays qui ont des budgets de loin supérieur à ces 14 milliards et par an. Je vais citer la République du Congo en face, je vais citer le Gabon, où on a des budgets qui valent la peine et nous, Congolais, avec toutes les richesses qu'on a, on devrait pouvoir mobiliser cet argent. Soit, passons. Mais d'abord, on nous dit également que la moitié de cet argent viendra de l'extérieur.
Plus de la moitié d'ailleurs.
Plus de la moitié. On peut aussi rêver. On se pose la question de savoir, bon, on espère que, comme la plupart des partenaires étrangers ont soutenu le processus électoral, malgré les couacs qu'on a vus, ils vont soutenir jusqu'au bout. Bon, mais seulement, l'argent, on ne l'a pas. Il faudra le mobiliser à l'extérieur et l'argent de l'intérieur doit être mobilisé. J'espère que la bonne gouvernance, la fin de l'impunité ou les contrats léonais, on va les rectifier pour essayer d'engranger un peu d'argent à gauche et à droite. Je voudrais, avant de terminer, ouvrir une parenthèse et ça rebondir sur ce que mon confrère Jean-Marie Bakajika a dit à propos de Kasongo Ilunga, le ministre du Commerce extérieur. Ben, de source sûre, j'apprends que M. Kasongo Ilunga, le vrai, est déjà à Kinshasa et qu'il aurait déjà été présenté au Premier ministre. Je me pose la question de savoir pourquoi on n'aurait pas pu rectifier et arranger ce problème avant la présentation du gouvernement. Deuxième petite chose.
Il doit répondre, normalement le Premier ministre doit répondre à ça ce samedi.
Je crois qu'il va y répondre. Deuxième chose, tout à l'heure Jean-Marie a parlé des applaudisseurs dans la salle. Et ça, je me suis posé la question de savoir si c'était encore l'époque de la propagande. On a vu des gens, des ministres, amener des gens dans la salle juste pour les applaudir quand ils allaient être présentés. Je me pose la question, Est-ce que c'est le moment pour les ministres de nous prouver qu'ils ont des gens derrière eux ou c'est le moment de nous montrer qu'ils sont capables de travailler? Je me pose la question et à haute voix.
Voilà, Jean-Marie Bakajika, vous nous écoutez depuis Kananga. Vous avez écouté les confrères, votre commentaire?
En fait, les commentaires, c'est comme je l'ai dit là, je suis content que je sois soutenu par Benoît Kandéré. Donc, nous devons quitter cette période-là où on voit toujours au palais du peuple, les gens acclamer, même quand il ne faut pas acclamer, les gens acclamer toujours. Maintenant, le temps est venu, fini la récréation, on passe à l'action et que les gens travaillent. Et nous voulons voir comment le débat va se dérouler le samedi. C'est là aussi la majorité parlementaire doit nous faire voir qu'elle a en elle l'intérêt de la population. Nous ne voulons pas seulement soutenir ce qu'il ne faut pas soutenir, hein, qu'on critique. Nous voulons voir aussi les députés de la majorité présidentielle critiquer ce programme pour l'intérêt de la population congolaise.
Claudine Bombo, alors on a souligné le fait que le Premier ministre s'est engagé à lutter contre la corruption et contre la pauvreté, mais un autre point sur lequel les députés pourraient insister n'est pas par exemple la mobilisation des recettes pour arriver à un bon financement de ce programme.
Justement, vous avez raison parce que tu sais que l'État congolais n'a jamais mobilisé des recettes dans ces pays. Il y a beaucoup d'argent qui prennent dans plusieurs services et que les services ne savent pas récolter ou quand bien même ils les récoltent, c'est pour leur poche. Nous devons commencer d'abord par la mobilisation des ressources dans les pays. Parce que chaque fois qu'on dépend de l'extérieur, vous savez ce que nous avons vécu. Tous les programmes de la Banque mondiale, des FMI sont suspendus parce qu'il y a eu des gestions, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas incapables, nous ne sommes pas capables de mobiliser des ressources dans les pays. Mais je regarde, il y a combien de parkings de véhicules dans ces pays, pour ne citer que là. Il y a combien d'hôtels, il y a combien de parcelles dans ces pays qui ne payent jamais les taxes foncières. Il y a beaucoup d'argent et que l'État congolais n'a jamais mobilisé. C'est le moment de mobiliser d'abord l'argent au pays et nous dire combien nous-mêmes nous allons d'abord mettre sur table avant de chercher à l'étranger, s'il vous plaît.
Oui, Félix Fabizi, vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet?
Oui, j'aimerais dire que, en fait, on devait s'attendre à des grandes réformes. Les réformes, comme Claudine venait de le dire, qui amènent les gens à contribuer pour le fonctionnement du budget. C'est le seul pays au monde où les gens ne payent pas l'impôt. Ça, c'est anormal. Et dans ce programme, on ne voit pas non plus si vraiment le gouvernement voudrait tout de suite la relancer, réhabiliter le paiement de l'impôt. On ne peut pas reconstruire le pays si tout se repose sur l'OFIDA et la DGC. Non, pas du tout. Il va falloir que des grandes réformes soient engagées, qu'on voit vraiment que le Premier ministre et son gouvernement sont décidés à faire les choses mieux que le gouvernement précédent. Et ça, malheureusement, ne transparaît pas dans le programme.
Tribune de la presse revient sur les faits marquants de la semaine. Présentation du programme de l'équipe d'Izenga à l'Assemblée nationale et l'incursion d'éléments armés sur le sol congolais. Nous en parlons avec Benoît Kambéré du magazine Renaître, Félix Kabuzi de la Référence Plus, Jean-Marie Bakajika de la CIMB Kananga et notre consoeur Claudine Mbombo du journal L'Observateur. Alors, les territoires congolais, objets d'incursion par des éléments de l'armée angolaise, ces troupes ont envahi depuis 20 jours la localité de Chaimwanda, non loin du territoire de Kaimba, dans la province de Bandundu, donc entre la RDC et l'Angola. Munis d'armes lourdes et de matériel d'extraction, ces hommes en uniforme se livreraient à l'exploitation de minerais dans la rivière de Katamba. Plusieurs villages de cette localité désertés par les habitants sont depuis occupés par ces éléments de l'armée angolaise. Un opérateur économique de la place s'est exprimé sur les sujets au micro de Agathe Mpona.
Il y a un groupe de gens, plus de 40, je peux dire, qui sont venus à Bitkotan avec des armes lourdes. Ils se sont installés là-bas. Ils ont refoulé les originaires de Chaimwanda. Ils se sont installés dans un village tout proche de Chaimwanda. Pour accéder à Chaimwanda, ils leur font payer un jeton pour les jours seulement. Ils retournent au village voisin pour retourner aussi, moyennant un jeton aussi. Mais ils ne font pas de tracasseries sur la population, bien sûr, bien. Mais semble-t-on que ces gens-là sont venus exploiter une source d'eau d'une rivière qu'on appelle Kakamba. Semble-t-on que les colons ont enterré des minéraux là-bas. Il y a les enfants des environs et aussi des Saïmbouanda qui se sont enrôlés depuis longtemps. Ils sont dans l'armée angolaise. Le gouverneur de Lunda Nord, qui est venu les installer, il a dit pas question de négociation.
Alors, le ministre congolais des Affaires étrangères a réagi face à cette incursion. Une note de protestation destinée au gouvernement angolais a été remise mercredi à Kinshasa à José Rodriguez, qui assure l'intérim de l'ambassadeur en déplacement. Benoît Kambéré, c'est déjà une tension diplomatique.
Ben, tension diplomatique, je voudrais bien le croire, parce que il est inconcevable que depuis 20 jours, une armée étrangère entre dans le territoire national sans que rien ne se fasse. C'est quand même terrible. On voit ici des gens mater des manifestations pacifiques des Congolais. On mobilise des forces armées, on mobilise la police pour aller tuer des Congolais, alors qu'il y a une armée étrangère qui, depuis 20 jours, est sur le territoire national. On n'a entendu personne dire quoi que ce soit, si ce n'est qu'une petite protestation diplomatique auprès d'un chargé d'affaires. Non, cela doit cesser. Que le pays continue à rester, à devenir ou à rester passoire, il faudrait que cela cesse. Parmi les objectifs de la transition, il y a eu la formation d'une armée structurée, intégrée. Et où sont toutes les brigades ?
À laquelle l'Angola a participé.
À laquelle l'Angola a participé. Mais comment les Angolais peuvent narguer comme ça un pays ami, parce qu'ils se disent amis du Congo ? Je viens de suivre ce que le compatriote vient de dire à propos du gouverneur de la province voisine. Si on peut nous narguer comme ça, c'est-à-dire que nous ne valons encore rien.
Jean-Marie Bakajika, est-ce qu'une première réaction congolaise aurait été d'agir militairement et obliger les uniformes angolaises à rentrer chez elles?
C'est une inquiétude pour nous Congolais de constater que nos frontières ne sont pas protégées. Par où ces personnes sont passées, ces militaires angolais sont passés pour entrer dans la République démocratique du Congo? C'est comme si nous, on n'avait pas des militaires de ce côté-là pour protéger nos frontières. Et alors, mais est-ce qu'une simple lettre de protestation remise à l'ambassade de l'Angola, est-ce que ça suffit? On voulait peut-être entendre le gouvernement congolais rehausser le ton, montrer que ce qui s'est passé, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Après tout, nous sommes un pays indépendant. Il n'y a que chez nous où les militaires peuvent entrer comme ça et non ailleurs. Ça, vraiment, c'est une inquiétude.
Félix Kabouizi, est-ce que la RDC a la possibilité d'exercer sa souveraineté maintenant?
Oui, mais il a le devoir d'exercer la souveraineté. Autrement, nous serions dans quel pays? Mais c'est vrai que le gouvernement est vraiment embarrassé. L'Angola fait partie des amis du pays qui ont soutenu militairement d'abord notre pays pendant la dernière guerre. Mais l'Angola, comme vous avez si bien rappelé, a participé également dans la formation non seulement de l'armée, mais également de la police. Mais là où ça devient encore beaucoup plus inquiétant, c'est qu'il y a quelques jours, des Congolais ont été expulsés. Et ce n'est pas la première fois que des Congolais sont expulsés de l'Angola. Bon, c'est vrai, c'est des irréguliers, mais ils sont souvent expulsés de la manière la plus humiliante. Mais on ne peut pas continuer à tolérer ce genre d'humiliation. Mais maintenant, c'est apparemment des aventuriers, des policiers, des hommes en armes, probablement qui ne sont pas envoyés par leur gouvernement, mais on a affaire à des aventuriers. Mais franchement,
est-ce que ça ne commence pas toujours comme ça en RDC?
Oui, ça peut commencer comme ça, ça peut commencer comme ça et devenir demain, après-demain, une nouvelle rébellion. Je crois que le rôle du gouvernement n'est pas seulement de protester, il devrait être d'abord de chasser ces gens. Ce sont des aventuriers. Je pense franchement que l'Angola, dans la position qui est la sienne, ne peut pas aujourd'hui alimenter une guerre contre, ne peut pas être à l'origine d'une guerre contre notre pays. C'est probablement des gens qui sont attirés par le diamant ou d'autres ressources précieuses qu'ils ont trouvées sur ces lieux-là. Mais le rôle du gouvernement est de les chasser. On ne peut pas tolérer ça.
Incursion toujours, mais cette fois-ci en province orientale, plus précisément à Ango, dans le district du Bas-Ouélé. Les éleveurs étrangers appelés Mbororo investissent les lieux. La cohabitation devient du coup difficile entre eux et les habitants de Ango qui exigent le départ sans condition de ces éleveurs nomades avec leur détail. Notre confrère Aliana Ali Panagama a été à Ango même en début de cette semaine.
Ces éleveurs Mbororo sont présentement localisés au nord de la cité d'Angon, des parts et d'autres le long du littoral de la rivière Api, avec les troupeaux estimés à des milliers de têtes de bétail. Ils ont parcouru près de 200 km à pied. Ils affirment rechercher des pâturages favorables à leurs troupeaux. Selon des témoignages sur place, ils descendirent la savane pour obtenir des herbes fraîches pour nourrir leurs troupeaux. Ceux-ci envahissent les champs des paysans à la recherche du pâturage. Ils troublent les eaux des rivières et des sources. Conséquence, les poissons sont devenus introuvables dans ces eaux. Toujours selon les mêmes témoignages, ces éleveurs Mbororo détiennent des armes de guerre. Avec ces armes, ils attaquent et abattent les herbivores de la savane. Dans certains villages, ils sortent pour acheter à manger à prix très élevé et en grande quantité. Et c'est la famine qui s'y installe. Face à ces tableaux sombres, la population et les autorités locales d'Angon demandent au gouvernement congolais le rapatriement pacifique et sans condition des éleveurs Mbororo. Des retours d'Angon, Alien Ali Panagama, Kisangani, Radio Okapi.
Alors, Claudine Mbombo, vous êtes du journal L'Observateur. Quelle différence faites-vous entre les deux incursions?
Georges, il n'y a même pas de différence. Parce que tu l'as soulevé tout à l'heure, ça commence toujours comme ça. Tu te souviens de ces débats qui a eu lieu à l'Est? C'était toujours, c'était d'abord les pasteurs qui sont venus pour paître et après, ils se sont transformés en militaires. Et ce qui se passe de l'autre côté, c'est la même chose. J'aime dire, je reviens de ce que sur les années on dit les frontières de la RDC. Où sont passées les 14 brigades déjà formées? Parce que dans les objectifs de la transition, on devrait en former 18. Quand on est déjà à 14, ça signifie qu'on a déjà formé 80% de ces brigades. Elles sont déployées où? C'est la question que nous posons au gouvernement. Nous savons que les moments sont durs, mais nous devons protéger nos frontières. On a parlé de la formation d'une armée dissuasive. Cette armée-là, elle est où? On commence toujours par perdre les troupeaux. On commence toujours par dire il y a des aventuriers qui sont en train, ce ne sont pas des vrais militaires. Et à la fin des comptes, ils deviennent des rebelles soutenus par des Congolais.
Alors Claudine Mbombo, on a retenu quelque chose, vous avez dit, vous avez parlé, vous avez évoqué un peu la perméabilité des frontières et l'insuffisance d'assurer le contrôle. L'administrateur de Ango fait entendre sa voix. D'après lui, si des ressortissants étrangers mènent la vie dure aux autochtones, c'est parce que l'État n'est pas représenté dans la partie nord de sa juridiction. Aucune présence des services de l'État ni des forces de l'ordre dans cette partie du pays. André Lemalema Kassissa, administrateur intérimaire du territoire de Ango, décrit la situation au micro de Aliana Alipanagama.
Je tiens à vous signaler que notre frontière avec la RCA n'est pas contrôlée. Sur une distance de plus de 250 km, l'État n'existe pas là-bas. Les gens peuvent entrer et sortir comme ils veulent. Il n'y a pas de force de ce côté-là, même pas la police. Les gens y arrivent là-bas seulement pour question de chasse ou de pêche. Dans notre territoire, nous avons peu de militaires, de policiers sous-équipés. Ces mololos sont venus de différents coins parce que ce sont des nomades. Ils entrent dans notre pays en brousse par la République centrafricaine en traversant la rivière Mbomo. Ce sont pour la plupart des Tchadiens, des Soudanais et des Sud-Africains. Ils viennent avec des vaches, des chevaux, des ânes, des moutons. Ils sont maintenant localisés sur trois chefferies. La chefferie de Sassa au nord, la chefferie de Mopoi au nord-est et la chefferie de Ezo vers le sud-est de notre territoire.
Venons Kambéré, nous avons là deux problèmes. Kaimba incursion, on a Ango incursion. Alors le vrai problème, c'est que l'État n'exerce pas sa souveraineté.
Oui, c'est à ce point grave. Et j'ai parcouru le programme du gouvernement. Parmi les piliers sur lesquels le gouvernement va se pencher, va s'articuler sur 5 axes pour gagner, pour entamer les chantiers du chef de l'État, c'est notamment la consolidation de la paix et de la nation, la construction de l'État et la restauration de son autorité sur toute l'étendue de la République. Et ça faisait partie des priorités du gouvernement de transition qui n'ont pas été atteintes. Mais malheureusement, je me demande pendant combien de temps cela va continuer. Il y a John Kony, Joseph Kony, le rebelle ougandais, qui, depuis des années, a comme base arrière notre pays. Et cela n'émeut personne. On fait des négociations Lui dit non, venez me rejoindre sur le territoire congolais, on négocie. Et là, comme si de rien n'était, comme si c'était une jungle sans maître. Ce n'est pas possible ça. Alice Lakwena, là, c'est aussi une rebelle ougandaise. Elle avait ses retranchements chez nous au Congo. Les Soudanais. Et c'est comme un passoire où n'importe qui peut se permettre n'importe quoi. Et c'est malheureux. Si c'est comme ça que nous serons gouvernés, alors on peut déjà déchanter pour les 5 ans qui arrivent.
Jean-Marie Bakajika, est-ce que les deux problèmes, Kaimba et Ango, ne viennent pas s'ajouter à d'autres problèmes sécuritaires qui existent déjà?
Mais vous le dites, Georges, ça vient s'ajouter à des problèmes que nous avons. Claudine l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas la différence entre ceux qui sont à Kaimba et ceux qui sont de l'autre côté, tous armés. Et ils entrent avec les armes comme ça dans un pays souverain, indépendant. C'est intolérable. Intolérable. Quand nous avons des problèmes chez nous que nous ne savons pas résoudre, voilà que les pays voisins, les amis de la RDC, nous amènent d'autres problèmes. Vous l'avez bien dit, Georges, ces problèmes viennent s'ajouter sur les problèmes que nous avons déjà, auxquels nous sommes en train de chercher des solutions.
Voilà, Félix Kabuzi, entre Kaimba et Ango, quelle est la situation la plus dangereuse pour le moment?
Bon, disons, Kaimba, c'est un peu plus récent, mais la présence d'Mbororo à Ango date de plusieurs années. Ce n'est pas un problème récent. En tout cas, si mes souvenirs sont bons, je crois en avoir entendu parler depuis plus de 5 ans. Ces éleveurs qui sont des nomades, ça c'est vrai, ont investi cette partie de la province orientale depuis plusieurs années et malheureusement, il n'y a toujours pas de solution. Je crois que tant que nous n'allons pas avoir une armée réellement capable de défendre le pays sur l'ensemble de ses frontières, nous connaîtrons des frontières poreuses et n'importe quel aventurier se
trouve. Claudine Bombo a souligné qu'il y a déjà 14 brigades.
Ah oui, mais ces 14 brigades, est-ce qu'elles sont... D'abord, est-ce qu'elles sont réellement motivées? Elles sont réellement opérationnelles? Est-ce qu'on les a déployées sur l'ensemble des frontières? Il y en a qui sont par-ci, par-là, mais il faut faire tout. En tout cas, la formation de l'armée, qui était une des priorités du gouvernement de transition, devrait être aussi une nouvelle priorité pour le gouvernement actuel, de sorte que le pays soit sécurisé. On ne peut pas comprendre vraiment que des éleveurs qui viennent du Tchad, du Soudan, entrent dans un pays, insécurisent le pays, insécurisent la population, qu'ils s'installent là-bas et qu'on nous apprenne qu'il n'y a même pas la présence d'une quelconque autorité de l'État à Ango. C'est franchement malheureux. Moi, je crois que le ministre de l'Intérieur devrait se pencher sur ce problème-là, rapidement déployer la police et son collègue de la défense devrait déployer des militaires. Il faut qu'on règle ce problème-là. S'il faut accepter temporairement la présence, mais ça doit se négocier avec leur pays et ils doivent être désarmés. On peut accepter qu'ils viennent si vraiment il y a des arrangements entre les deux pays, mais on ne peut pas accepter que des gens entrent militairement, chassent nos populations, insécurisent le pays et qu'ils s'installent et fassent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas normal.
Jean-Marie Bakajika, vous avez suivi Félix Kabuzi qui donnait une solution. Il faudrait que le ministère de l'Intérieur puisse se saisir de ces cas. Est-ce que cela n'implique pas aussi le ministère de la Défense?
Mais ça va de soi, Georges. Ça va de soi. Il faudrait pas que ça sorte de Félix Kabuzi. Je pense que les deux ministres pouvaient déjà se saisir du dossier et se mettre déjà au travail. Il fallait pas que la tribune de presse en parle pour que le gouvernement puisse se mettre au travail. Nous pensons que peut-être pendant que nous parlons, peut-être que les deux ministres sont déjà saisis des dossiers. Ils doivent trouver des solutions pour laisser quand même les populations congolaises à l'aise. On ne comprend pas que les étrangers viennent dans un pays, dans un village, on trouve la population qui vit avec ses problèmes, on vient créer l'insécurité, c'est pas du tout normal. Et aussi, il faudrait, on l'a dit tout à l'heure, depuis que tous ces problèmes se passent, il faudrait quand même que ce ministre, celui de l'Intérieur et de la Défense, devrait faire des déclarations. Mais au Congo, le gouvernement, c'est comme si le gouvernement ne voyait pas l'ampleur de ces deux situations dans les deux provinces.
Mais on retient que le ministre de l'Intérieur avait quand même tenu en début de semaine d'apporter quelques précisions. Et il avait même dit, je pense, que c'était un petit commandant qui n'était pas sous les ordres de l'armée angolaise et que c'était des policiers. Benoît Kambéré, comment analysez-vous un peu cette position du ministère de l'Intérieur?
Écoute, Georges, si c'est un petit commandant qui ne dépend pas des autorités angolaises, on le laisse faire. C'est comme ça que ça commence. Claudine l'a dit tantôt. Aujourd'hui, c'est Ango, hier, c'était Kaemba, demain, ce sera où? Après-demain, ce sera où? Quand c'est un petit policier qui ne dépend de personne, bon, on laisse faire. Non, c'est là qu'on doit montrer l'autorité de l'État qu'on est en train de montrer quand il y a des manifestations pacifiques. C'est là qu'on devait voir les autorités aller avec fermeté et pas minimiser les problèmes comme ça. Nous avons 9 pays frontaliers. Si ça commence partout comme ça, des petits commandants qui font n'importe quoi, on laisse faire, on est parti pour la gloire. C'est là qu'on doit les voir à l'œuvre et pas quand il y a une marche pacifique à Kinshasa ou au Bas-Congo, de carnage et tout. Non, moi je serais content qu'on envoie des troupes parce qu'on a des armes qu'on utilise contre la population civile. Ce serait bien qu'on les envoie sur des petits commandants qui ne dépendent pas de leur pays, comme l'Angola c'est notre pays ami.
Alors, Claudine Mbombo, il n'y a pas longtemps que les chefs d'État des Grands Lacs venaient de signer un pacte de stabilité. Est-ce que le pacte de stabilité peut apporter une solution pour des petits problèmes jusque-là, si nous devons les appeler comme tels, peut apporter aussi des solutions dans ces cas?
C'est bien beau, hein? Mais les gens-là, tous nos politiciens et même les présidents de la République doivent se rappeler que dans la politique, ce sont les intérêts du jour. Tant que vous négociez en position de faiblesse, mon cher ami, on a signé autant de traités internationaux, on a signé autant de pactes, mais où est-ce que nous nous retrouvons aujourd'hui? Tout ça parce que la RDC négocie toujours en position de faiblesse. Chaque fois qu'on arrive à une réunion quelconque, parce qu'on n'est pas en règle de cotisation, parce qu'on a manqué ceci, cela, on n'a pas droit à la parole, on est observateur et conséquence. Voilà là où on nous amène. Benoît bien vient de le dire tout à l'heure. Il ne faut pas négliger n'importe quoi. Nous avons des frontières. Mais qu'on nous dise, même dans le programme gouvernemental dont on a parlé tout à l'heure, combien il nous faut de soldats dans ces pays pour sécuriser nos frontières. On ne nous le dit pas. Combien de fonds il faut allouer à l'armée congolaise pour qu'elle soit indépendante, pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit équipée, pour que nos militaires soient bien payés. On le dit où? On ne le dit pas. Et nous allons nous réveiller un bon matin, non? Maintenant, c'est la rébellion. Tu sais, hein, ils ont compris qu'à l'Est, il y a maintenant une attention soutenue du gouvernement. Maintenant, ils se déploient vers l'Ouest. Et demain, ça sera même le centre. Ne soyez pas surpris un jour de voir qu'ils se retrouvent dans les deux Kassai. Selon les informations qui circulent en Mbujimayi, il y a eu 40 véhicules pleins de militaires qui sont à Kaemba. Et si cela se confirme, vous allez nous dire que c'est un petit officier qui n'est pas dans l'armée angolaise et on peut négliger l'information ou on peut négliger ces dangers-là. Non, c'est le ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Défense. Ils doivent descendre sur terrain, nous dire qu'est-ce qui se passe exactement.
Voilà, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Félix Kabuzi, est-ce que le danger aujourd'hui peut venir de l'Ouest?
Oui, mais ça peut venir de partout, hein. Franchement, ça peut venir de partout, tant que, comme je venais de dire tout à l'heure, on n'a pas une armée qui sécurise l'ensemble du pays, le danger peut venir de partout. Et maintenant, c'est même, comme on a dit, des groupuscules des gens incontrôlés qui insécurisent le pays et le gouvernement. C'était ça, franchement, c'est une démission incroyable.
Nous allons écouter, peut-être pour terminer, Jean-Marie Bakajika. Vous avez aussi entendu Claudine dire tout à l'heure que la RDC s'est trouvée en position de faiblesse. Est-ce que la RDC se trouve aussi en position de faiblesse par rapport à l'Angola?
Ah ben en fait, nous regrettons. Ben en fait, l'Angola, c'est un pays ami, vous l'avez dit. Je ne sais pas si la RDC tolère la présence des militaires angolais, même si vous les avez appelés un petit commandant et un petit policier, mais si on doit tolérer des choses comme ça, ça sera toujours une faiblesse. C'est une faiblesse, parce que moi je ne vois pas les militaires congolais entrer en Angola et faire ce que les Angolais plutôt viennent faire chez nous. Donc il n'y a que les autres pays qui font ça chez nous, mais nous c'est le contraire. Donc c'est comme nous on n'avait pas aussi la capacité, la force d'aller dans un pays étranger faire ce que les autres pays font sur nous. Donc nous sommes devenus, on dirait, un cahier de brouillon ou n'importe qui peut écrire n'importe quoi.
Fin de cette tribune de la presse. Merci à tous nos confrères pour leur participation. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission et ceux qui l'ont élaborée. La rediffusion en FM, c'est demain à 5h30 heure de Kinshasa. Il sera 6h30 à l'est du pays. Si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Vous pouvez aussi y joindre vos réactions. Le programme continue sur votre radio. Excellent week-end à tous et à la semaine prochaine.